Alors, dans le catéchisme de l'Église catholique, sur l'ascension, c'est les numéros 660 et suivants. Catéchisme de l'Église catholique de 1992. Jésus est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Numéro 659. Or, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ça, c'est Saint Marc, hein, toujours très court. Chapitre 16, verset 19. Le corps du Christ a été glorifié dès l'instant de sa résurrection, comme le prouvent les propriétés nouvelles et surnaturelles dont jouit désormais son corps en permanence. Lumineux, impassible, immortel et subtil. Oui.
C'est comme la transfiguration.
À la transfiguration. Sauf que c'est maintenant son état permanent. On m'a appris il y a peu de temps. Vous voyez, moi je prenais toujours l'exemple des photons qui traversent le verre, mais sachez que le rayonnement magnétique traverse vraiment les particules magnétiques traversent des quantités de matière incroyables. On m'a dit la particule de boson va très 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 loin, paraît-il. Il faut des épaisseurs extraordinaires pour que cette particule n'arrive pas. Bon. Eh bien, les atomes d'un corps glorieux, de calcium, de fer, d'oxygène, d'hydrogène, du sang, traversent la matière en se faufilant dans la structure atomique de ce qu'elle rencontre. Et c'est la raison pour laquelle le Christ n'a pas ouvert l'hymen de sa mère à sa naissance. Car il avait déjà un corps glorieux, mais qui ne se manifestait pas. Après sa résurrection, son corps est définitivement glorieux. Il n'a plus à empêcher la redondance de sa vision béatifique sur son corps humain. Vous voyez ? Mais pendant les 40 jours où il va manger et boire familièrement avec ses disciples et les instruire sur le royaume, sa gloire reste encore voilée sous les traits d'une humanité ordinaire. Vous avez vu ? La dernière apparition de Jésus se termine par l'entrée irréversible de son humanité dans la gloire divine, symbolisée par la nuée et par le ciel. Le ciel lumineux, ça symbolise la vie divine, mais ce n'est pas la vie divine d'être en l'air. Où il siège désormais à la droite de Dieu. Ce n'est que de manière tout à fait exceptionnelle et unique qu'il se montrera à Paul comme à l'avorton. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 8. Vous voyez, c'est beau parce qu'en 1992, ils vont briser ceux qui disaient que Jésus était apparu par image à saint Paul. Et l'Église s'engage dans le catéchisme universel et dit « Jésus est apparu en chair et en os à saint Paul ». La vision que saint Paul a eue est une vision physique du Christ. L'Église s'engage à le dire, alors que ce n'est pas précisé. Hein. C'est impressionnant, hein. Il se montrera, ce n'est que de manière tout à fait exceptionnelle et unique, qu'il se montrera à Paul comme à l'avorton, en une dernière apparition qui le constitue apôtre. Voilà ce que sous-entend la Sainte Église catholique, c'est que Jésus a voulu être physiquement présent pour dire à Paul qu'il était son apôtre. Voilà ce qu'elle dit. C'est beau, hein.
Est-ce que saint Paul a rencontré
le Christ,
le Saint-Luc?
Ah, très probablement, oui. Oui, mais il a très peu rencontré les apôtres. Il les a rencontrés, mais il les a pas longtemps. Parce que le Christ a instruit Saint Paul pendant 3 ans au désert. Donc, il lui a sans doute révélé, parce qu'il n'a vu les apôtres que 15 jours. Ben parce que Saint Paul dit de lui-même qu'il est un avorton. Parce qu'il est un pécheur affreux, pas beau, voilà. Et par son humilité, il dit « Je suis un avorton ». Non, c'est lui qui le dit de lui-même. Et Alain Decaux avait fait une biographie de Saint Paul sur le titre, c'était « L'avorton de Dieu ». Numéro 660. Le caractère voilé de la gloire du ressuscité pendant ce temps transparaît dans sa parole mystérieuse à Marie-Madeleine. « Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Saint Jean, chapitre 20, verset 17. Ceci indique une différence de manifestation entre la gloire du Christ ressuscité et celle du Christ exalté à la droite du Père. C'est une exégèse catholique sans discussion de ce passage. L'événement à la fois historique et transcendant de l'ascension marque la transition de l'une à l'autre. Et donc, le Christ, lorsqu'il apparaît à Sainte Faustine ou à Sainte Marguerite Marie, c'est une image, c'est pas lui en chair et en os. D'ailleurs, on ne le touche jamais. Tandis que la Vierge Marie, elle, quand elle vient de là où elle vit avec Jésus, elle vient avec son corps. Pas toujours, mais rue du Bac, la Vierge Marie s'est assise sur le fauteuil. Moi, à chaque fois que je vois rue du Bac, que je vois ce fauteuil, je me pâme, n'est-ce pas? Je tombe dans les pommes, tout ça, j'ai une extase, je monte en l'air, tout. Et c'est, je peux vous assurer que de se dire que Marie s'est assise sur ce siège, c'est quand même extraordinaire. Et elle a touché les genoux de la Vierge. Et à Fatima, la Vierge Marie est vraiment venue à Fatima en chair et en os. Les branches du chêne au-dessus de lesquelles elle apparaissait ployaient pour signifier sa présence. Et pas seulement une présence, d'image. Et, comme c'est possible, hein, la Vierge Marie est apparue aussi mais ça nous ferait tellement plaisir de toucher Jésus avant la fin du monde. Ben oui. Hein. Mais notre Seigneur est quand même Dieu. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir. Mais Sainte Faustine l'a vu en image, qui lui parlait. Enfin, c'est impressionnant. Vous avez des saints qui ont entendu la voix de Jésus. C'est pas suffisant. C'est déjà pas mal quand même. Numéro 661. Cette dernière étape demeure étroitement unie à la première, c'est-à-dire à la descente du ciel réalisée dans l'incarnation. Seul celui qui est sorti du Père peut retourner au Père, le premier, le Christ. Personne n'est jamais monté aux cieux, sinon le Fils de l'homme qui est descendu des cieux. Jean, chapitre 3, verset 13. Laissée à ses forces naturelles, l'humanité n'a pas accès à la maison du Père, à la vie et à la félicité de Dieu. On ne peut pas. Par notre nature humaine, on n'a pas accès à la vision divine. Le Christ seul a pu ouvrir cet accès à l'homme, de sorte que nous, ses membres, nous ayons l'espérance de le rejoindre là où lui, notre tête et notre principe, nous a précédés. C'est la préface de l'ascension. Vous voyez ? Moi, une fois élevé de terre, j'attirai tous les hommes à moi, Jean 12, verset 32. L'élévation sur le Christ signifie et annonce l'élévation de l'ascension au ciel. Elle en est le début. Jésus-Christ, l'unique prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, n'est pas, citation d'Hébreux, chapitre 9, verset 24, entrer dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais dans le ciel, afin de paraître maintenant à la face de Dieu en notre faveur. Au ciel, le Christ exerce en permanence son sacerdoce, étant, Hébreux chapitre 7, verset 25, étant toujours vivant pour intercéder en faveur de ceux qui par lui s'avancent vers Dieu. Comme, chapitre 9, verset 11 des Hébreux, grand prêtre des biens à venir. Il est le centre et l'acteur principal de la liturgie qui honore le Père dans les cieux. La liturgie de l'agneau dans l'Apocalypse et dans la Jérusalem céleste, quand Jésus va revenir sur terre pour juger les vivants et les morts, les vivants vont mourir en un clin d'œil, nous dit saint Paul. Tous ceux qui seront vivants au moment de la fin des temps vont mourir par le feu. Mais ils ne vont pas beaucoup souffrir apparemment, puisque saint Paul nous dit que ça sera le temps d'un clin d'œil. Ben disons, ça sera... Hein, ça sera impressionnant. Le Christ revient en gloire. Et là, voyez-vous, il est la Jérusalem céleste descend du ciel, c'est-à-dire c'est la vie divine qui va être sur la surface de la terre, parce qu'on aura un vrai corps. Notre âme sera plongée en Dieu, mais notre corps sera vivant. On aura des yeux et on verra. Et à mon avis, je vous l'ai déjà dit 100 fois, la surface de la terre ne va pas rester cramée. Et on est là, on voit Dieu, on se voit. Oh maman, papa, mon petit frère, tout ça, ma grand-mère et tout, et hop. Et là, il y a grand-mère qui dit, quand même, Jésus aurait pu refaire un peu d'herbe. Et, parce que franchement, on est là, et tout est cramé en dessous de nous. Il n'y a que la Jérusalem céleste qui est là, toute belle, splendide, merveilleuse, avec le Christ lumineux, et tout le reste, lunaire. Vous voyez ? Non. La terre sera réornée. Et voyez-vous, une des choses qui me le fait dire, et je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il y a tant de fantaisie dans la création, dans les insectes, dans les plantes, les fleurs. Je ne vois pas Dieu nous redonner un corps et ne pas faire une ornementation pour nos yeux. Lui qui a tant aimé les fleurs, les animaux de toutes sortes, il va pas pouvoir s'empêcher de nous faire un décor. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est pas le plus important. Mais Dieu peut pas, va pas pouvoir ne pas réorner la terre. C'est pas possible. Voilà. Et ça, c'est pas de foi. Hein. Numéro 663. Le Christ, désormais, siège à la droite du Père. Saint Jean Damascène, cité par le catéchisme de l'Église catholique, donc ça veut dire que l'autorité d'enseignement magistériel, le magistère, le maître, l'Église catholique prend cet extrait de Saint Jean Damascène et dit ce qu'il a dit. On le considère comme inspiré. Et nous, inspirés par l'Esprit Saint pour enseigner le monde entier, nous surélevons cet écrit privé de Saint Jean Damascène comme une parole vraie et propre à élever votre âme et à vous sauver. Donc, citation entière de Saint Jean Damascène. Par droite du Père, nous entendons la gloire et l'honneur de la divinité, où celui qui existait comme fils de Dieu avant tous les siècles, comme Dieu et consubstantiel au Père, s'est assis corporellement après qu'il s'est incarné et que sa chair a été glorifiée. Alors pour ceux qui ne maîtrisent pas absolument bien le français, sachez que « après que », c'est suivi de l'indicatif et non pas du subjonctif. Et c'est là qu'on voit que c'est très bien écrit. Parce que « après que », ce n'est pas du subjonctif, ce n'est pas quelque chose qui est plus ou moins conditionnel. Voyez. C'est de l'indicatif, c'est-à-dire que c'est un fait précédent. « Après qu'il s'est incarné et que sa chair a été glorifiée. » Donc ça veut dire que la plénitude de sa divinité qu'il a toujours eue comme verbe de Dieu, associée à une nature humaine, est dans la gloire et manifestée dans sa divinité. Il l'a jamais quittée, mais il l'a vu, il y a un mode particulier par sa nature humaine qui est présente dans cette gloire. Et c'est ça l'ascension. L'ascension, c'est le fait que l'éternelle divinité du Verbe soit dans la manifestée avec cette nature humaine définitivement. Parce que pendant 33 ans, il était sur Terre. Et donc, c'est impressionnant, c'est notre nature humaine est dans la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Tout en restant de l'être créé hein, en Jésus. Mais c'est impressionnant. D'où la préface de l'ascension, de sorte que nous, ses membres, nous ayons l'espérance de le rejoindre là où lui, notre tête et notre principe, nous a précédé. Donc voyez-vous, l'allégorie, l'analogie du corps, des membres du corps, est quand même très importante. Jésus est un homme et il est notre tête comme un corps humain. Et nous, nous sommes ses membres. Parce que quelqu'un de nous, de notre nature humaine, est dans la vie éternelle. Et donc, ça rejaillit sur toute l'humanité. Et donc, la dignité humaine, en effet, est extraordinaire. Si elle se sauve, parce que, comme c'est triste, une personne humaine qui a la haine. Parce que j'insiste, hein, Dieu ne damne pas. C'est la personne humaine qui ne veut pas vivre avec Dieu. Et donc, il faut bien faire la différence, même si parfois les paroles sont fortes, « Retirez-vous de moi, maudit, et allez dans le feu éternel. » Voyez. Mais il faut l'intégrer avec « Combien de fois j'ai voulu te réunir comme une poule réunit ses poussins sous ses ailes. » Donc Dieu nous appelle à lui. « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai soif. » Voyez. Il a soif des âmes, il a soif d'amour, et les damnés ne répondent pas à cet amour. Et c'est ça. Oui.
Le jugement condamnation par définition.
Tout à fait. Oui, mais c'est une condamnation dont on participe.
Ah, bien sûr, oui, on est coupable. Je vais
Le coupable reconnaît qu'il est coupable. Il en souffre, il proteste en quelque sorte, enfin il proteste, non justement pas, il résiste au malheur qu'il veut, il voudrait être heureux tout en étant dans la sa haine, comme quelqu'un qui dans une querelle de famille veut sauver en disant non mais c'est moi qui suis injustement traité, tout ça, alors que c'est lui qui a fait la zizanie, qui est jaloux du partage d'héritage et tout, et qui fait la guerre dans la famille. Non, c'est moi qui ai été, c'est moi l'innocent, c'est moi qui ai été injustement traité.
Et... Le jugement, c'est quand même Jésus qui juge.
Ah oui, mais Jésus constate la haine.
Constate, mais qui emmène qui alors?
Comment?
Qui va aux enfants?
Ah ben eux ne voudraient pas y aller.
Bien sûr, mais si on
y a... Eh ben Saint-Michel va les conduire galamment. Voilà. Et s'ils veulent pas, ils sont un peu aidés. Oui. Et à un moment donné, vous avez les démons qui les saisissent. La vision de Fatima, c'est les démons qui sont au milieu du feu avec les damnés. Hein.
Alors pourquoi la mort du Christ dit que son âme descend aux enfers?
Les enfers, c'est les lieux inférieurs de la terre où étaient les âmes des justes avant l'arrivée du Christ. Les limbes des patriarches.
Oui.
Limbe, ça veut dire la limite entre le ciel et l'enfer. Voilà. Mais pas encore. Il leur dit dans 40 jours. Et eux qui attendaient depuis plus suivant 20 ans, Le bon larron, lui, il attendait depuis quelques minutes. Donc là, il dit 40 jours. Bon, c'est bon. Oh, 40 jours. Donc il a fait le fanfaron avec les autres et tout. Ouais, j'ai eu que 40 jours. Et Moïse, toi, 1200 ans dans les dents. Hein, toc.
Les enfers, c'est les limbes des patriarches.
Oui, enfin, les enfers. L'enfer, c'est le lieu de souffrance et de haine. Okay.
C'est curieux cette.
Mais parce que enfer, ça veut dire lieu inférieur. Parce que l'enfer, par contre, autant le ciel n'est pas un lieu, mais un état de l'âme qui voit Dieu, autant l'enfer sera sous la terre. Sera dans le magma terrestre.
D'accord.
Et la vision de Fatima corrobore cette interprétation coutumière et forte du lieu de l'enfer, sous la terre.
C'est le mot latin inferno.
Oui.
C'est le même terme.
Oui, ça veut dire inférieur.
Dans les enfers, dans l'Ancien Testament, il y avait également les damnés. Ou est-ce qu'ils étaient dans l'enfer?
Il était dans, en enfer. Oui.
Donc il y avait l'enfer et les enfers.
Tout à fait. Et il y avait le purgatoire aussi.
Oui.
Il y avait enfer, purgatoire, l'un des patriarches, enfin, ceux qui étaient sortis du purgatoire, parce qu'ils avaient suffisamment réparé leurs péchés, et ils attendaient, mais ils n'étaient plus au purgatoire, et ils attendaient. Vous avez les saints prophètes ou les saintes femmes et autres qui étaient dans les limbes, n'étaient pas au purgatoire.
Donc en fait, les limbes n'existent plus depuis que Jésus.
Tout à fait. Alors on s'est posé la question des enfants morts sans baptême, ou des personnes n'ayant pas pu faire un acte de malice avant de mourir, des personnes avec un handicap mental extrêmement lourd et qui restent enfants dans leur jugement. Donc on considérait qu'ils allaient au limbe des patriarches, dans un lieu où ils ne sont ni condamnés, ni dans la vision de Dieu, puisqu'ils n'ont pas choisi cette vision. Le pape Jean-Paul II a décidé de dire on les recommande à la miséricorde de Dieu. Donc on ne les place pas au ciel non plus. Mais on ne les place plus dans un lieu de bonheur naturel qui était les limbes.
Mais les juifs concordent avec un système, pas de paradis.
Ah bien sûr.
Ils sont toujours avec le système binaire.
Les juifs croient à l'enfer, au purgatoire.
Il n'y a pas de paradis.
Eh bien, si. Et pour eux, enfin, vous avez raison. C'est-à-dire que le paradis pour eux, pour l'instant, c'est de vivre avec Abraham. On appelle ça le sein d'Abraham, dans un bonheur naturel. Et le Messie apportera peut-être une lumière particulière.
Matériel.
Mais est-ce qu'ils croient qu'on verra Dieu face à face? Je ne sais pas. En tout cas, saint Paul, qui est quand même un grand, grand pharisien, à moins que ce soit le Christ qui lui révèle, lui, il dit, on verra Dieu face à face. C'est-à-dire esprit à esprit. C'est pas avec nos yeux de chair qu'on le verra, hein, c'est avec notre âme. Mais nos yeux de chair du corps ressuscité verront une lumière de Dieu, une vraie lumière. Comme les Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus avec une vraie lumière. Et comme les petits enfants de Fatima ont vu Marie luminescente. Hein. Elle était diaphane, elle avait un corps aérien très très lumineux, et ils étaient. Alors Garabandal, qui n'est pas reconnu par l'Église, elles ont des extases très impressionnantes à Garabandal. C'est-à-dire que elles vont parcourir le village en voyant la Vierge Marie, en regardant en l'air. Sans chuter, sans tomber dans un trou, s'il y a un caillou, évitant le caillou, s'il y a un muret, en contournant le caillou, alors qu'elles ont la tête en l'air. Hein. C'est des phénomènes très surnaturels. Hein. Si c'est démoniaque, c'est bien vu. Hein. Et à un moment donné, on dit, mais on voudrait voir un miracle. Vous dites que vous communiez. Oui, on communie. Il dit, mais on voudrait voir à ce moment-là la communion. Et quelques jours plus tard, il dit, vous allez voir la communion. Donc les gens la suivent, ils partent en extase. Et à un moment donné, elle s'arrête. Et au moment où elle ouvre la bouche pour recevoir la communion, on voit l'hostie sur sa langue avant qu'elle l'avale. Et les gens, waouh, waouh, une hostie qui apparaît avant d'être avalée.
Oui. L'Escurial.
Ah ben l'Escurial maintenant va être reconnu par l'Église. Hein, donc. Or, l'évêque du lieu a permis la messe, une chapelle. Le message de l'Escurial, c'est pas. Oui. C'est sévère. Hein. Ah oui, c'est l'apparition de Notre-Dame à l'Escurial en Espagne. Oui, oui. Mais on va terminer l'ascension, s'il vous plaît. Alors, la session, numéro 664. La session à la droite du Père signifie l'inauguration du règne du Messie, accomplissement de la vision du prophète Daniel concernant le Fils de l'homme. Daniel, chapitre 7, verset 14. À lui fut conféré empire. Donc c'est le prophète Daniel. Hein. Daniel, c'est 500 ans avant Jésus-Christ. Hein. Donc la vision qu'a Daniel, Daniel n'était vraiment pas le dernier des prophètes. Hein. C'est un des quatre grands prophètes. Jérémie, Isaïe, Élie et Daniel. Et Daniel, dis donc, c'est pas un rigolo. Hein. C'est Daniel, c'est... Quand est-ce que vous allez nous sauver? On en a assez. C'est plus possible. Je veux le salut. Je veux manifestez-vous. Faites des miracles. Faites quelque chose. J'en peux plus. Là, vous avez Gabriel qui arrive en jouant de la flûte. Oh, bonjour Daniel. Tu es un homme de désir. Ta prière a été entendue. Qu'on a retiré nos boules caisses, hein, parce que vraiment, franchement, hein, eh bien, le Sauveur, le Messie, va arriver dans 70 semaines d'années. Au revoir. Il y a Daniel, 70 semaines d'années. 70. Fois 7 fois 1 an, donc 490 ans. Mais quel plaisantin ce Gabriel! Il est en train de me dire, mais tu es exaucé, tu vas savoir, voilà. Dans 490 ans. Et de fait, de Daniel à l'arrivée de notre Seigneur, on a 5 siècles. C'est impressionnant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sans doute, ceux qui scrutaient les Écritures disaient c'est le temps messianique. Parce que la prophétie de Daniel arrive à son terme. Et voilà ce que Daniel a eu comme vision. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire est un empire à jamais qui ne passera pas, et son royaume ne sera pas détruit. Vous comprenez que les apôtres, ayant été bercés du prophète Daniel, lui, eux, la passion, la résurrection, l'ascension, ben non, l'empire, l'honneur, le royaume, donc ça, ils le méditaient en boucle, hein. Ah Seigneur. Et donc au tout début, quand ils étaient avec Jésus, ils disaient, bon, on commence modeste, hein. Ce soir, on n'est pas allé dans une auberge, hein. Je ne sais pas pourquoi il a décidé qu'on dorme près de la rivière, là. Bon, ils poussent les cailloux, ils se mettent dans leur manteau. Bon, c'est le roi des rois, mais enfin, c'est un peu chiche, hein, aujourd'hui. Hein. Donc, la première semaine, il se dit, c'est comme ça, c'est... Avec Saint Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on a dormi dehors aussi, mais bon. Ben, c'est le Messie, quand même. Et puis, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, il est toujours là. Hein, le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Et là, vous avez Thomas qui dit, oui, ça je confirme. Enfin, quand on prend une pierre pour oreiller, c'est pas terrible. Hein. Il y a Saint-Pierre, il dit, moi je prends un rondin, hein, c'est plus doux. C'est, hein. Jean, il dit, moi, je mets de la mousse. Ouais. Et en tout cas, si vous voulez, c'est... Mais son empire est un empire à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit. Vous comprenez pourquoi ils sont là, ils disent, bon, c'est un mauvais moment à passer, mais il va prendre le pouvoir. C'est pas possible, c'est la prophétie de Daniel, le Messie, c'est l'empire, le royaume, tous les peuples et les nations et les langues. Eh bien, voyez-vous, les apôtres, voyez, eux qui sont actuellement dans le ciel et la vie éternelle, ils voient, dans tous les pays du monde, il y a la croix. Dans tous les pays du monde, il y a une église. Même clandestine comme en Arabie Saoudite. Dans tous les pays du monde, il y a la Sainte Eucharistie qui est présente, cachée ou publique. Donc ça veut dire que cette prophétie s'est réalisée. Mais pas d'une manière délirante et avec un palais en or massif et Jésus... À partir de ce moment, les apôtres sont devenus les témoins du règne qui n'aura pas de fin. Et là, ils ont été assagis. Ils n'ont plus jamais souhaité que le Christ devienne, devenir premier ministre, ministre. C'était fini. Ils ont compris. Mais Jésus leur a ouvert, leur esprit à l'Écriture. En bref, numéro 665. L'ascension du Christ marque l'entrée définitive de l'humanité de Jésus dans le domaine céleste de Dieu, d'où il reviendra. Mais qui, entre-temps, le cache aux yeux des hommes. C'est amusant parce que le résumé qu'ils font rajoute des faits, un enseignement. Donc il ne faut pas seulement lire en bref, vous voyez. Ou alors il ne faut, faut pas se dire « Oh, mais c'est le résumé de ce qui précède ». Non, 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 c'est très très riche. Numéro 666. Jésus-Christ, tête de l'Église, nous précède dans le royaume glorieux du Père pour que nous, membres de son corps, vivions dans l'espérance d'être un jour éternellement avec lui. Numéro 667. Jésus-Christ est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, intercède sans cesse pour nous comme le médiateur qui nous assure en permanence l'effusion de l'Esprit Saint. Et donc, ce sera la prochaine fois, la Pentecôte.